Merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel. Il est 13h30 à Paris et à Bruxelles.
RFI Midi, Anne Cantner.
Et dans une demi-heure, ce sera l'heure du journal de Marion Kazanov et vous nous parlerez tout à l'heure, Marion.
Et on sera en Cisjordanie occupée en début de journal. Notre correspondant s'est rendu à Jénine, ville en ruine, lourdement endommagée après les multiples raids israéliens sur place. L'armée israélienne s'est retirée en fin de semaine après avoir mené ce qu'elle présente comme une opération antiterroriste. Les premiers pas de Michel Barnier en France, premier pas très scruté pour le nouveau Premier ministre nommé jeudi dernier. Il doit nommer désormais un gouvernement sans frustrer loin l'un des trois blocs à l'Assemblée. Il poursuit donc ses consultations et s'attaque aussi à un défi majeur, le budget. En Russie, des élections locales dans plusieurs régions ce week-end. Sans surprise, les hommes de Vladimir Poutine devraient remporter ces scrutins. En revanche, une première dans le pays, la mise en place du vote électronique. Système qui permettrait des fraudes massives selon des opposants. Et puis on parlera du super typhon Yaji au Vietnam. Le dernier bilan fait état de 59 morts, des villes dévastées, des coupures d'électricité. Et ces tempêtes seront de plus en plus fréquentes et violentes à cause du réchauffement climatique.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
Au sommaire de cette prochaine demi-heure consacrée à l'actualité européenne, les déclarations du chancelier allemand sur l'Ukraine, sur sa volonté de faire avancer des discussions de paix. On évoquera aussi dans les prochaines minutes les enjeux de la visite en Chine du Premier ministre espagnol. Pedro Sanchez a rencontré tout à l'heure le président chinois à Pékin. Et puis nous vous emmènerons en Catalogne où l'on peine à se remettre des derniers mois de sécheresse. Reportage dans un quart d'heure.
RFI. L'Europe à midi.
Les forces russes avancent encore dans l'est de l'Ukraine. Elles ont pris le contrôle d'un nouveau village dans la région de Donetsk. Et c'est un argument de plus pour le chancelier allemand qui demande davantage d'efforts diplomatiques pour arriver à la paix. Olaf Scholz l'a répété hier soir dans une interview qu'a suivie pour nous Ludovic Piétenu. Ces déclarations, Ludovic, interviennent dans un contexte particulier. Une rencontre avec Volodymyr Zelensky la semaine dernière et surtout la réduction annoncée de l'aide allemande, même si le chancelier martèle que ce soutien reste important.
De nouveaux systèmes de défense aérienne livrés dans les prochains mois, ainsi que 12 chars. Avec ces annonces faites vendredi, Berlin insiste sur son soutien militaire à l'Ukraine et le chancelier Scholz de préciser aussi longtemps qu'il le faudra. Sauf que le budget pour 2025, sous réserve qu'il soit voté par le Parlement, prévoit de diviser par deux cette aide stratégique, de 8 à 4 milliards d'euros. D'où la nécessité de mettre fin à ce conflit. Après la première conférence sur la paix de juin dernier en Suisse, le temps est venu d'un nouveau sommet.
C'est maintenant le moment de discuter de la manière dont nous pouvons sortir de cette situation de guerre et parvenir à la paix plus rapidement. Il y aura sans aucun doute une autre conférence de paix. Et le président Zelensky et moi sommes d'accord sur le fait qu'elle doit se faire avec la Russie.
C'est un message à Moscou qui avait refusé de participer à la première conférence. C'est un message aussi aux téléspectateurs allemands. Olaf Scholz a entendu le résultat des deux élections régionales qui, il y a une semaine, ont montré dans la partie est de l'Allemagne un rejet croissant du soutien militaire à l'Ukraine. À un an des élections fédérales, si le chancelier veut sauver sa place, une sortie rapide de ce conflit pourrait lui être profitable. Ludovic Piétenu, Berlin, RFI.
Une sortie rapide du conflit pour éviter un nouvel hiver de guerre. Les mois froids qui arrivent inquiètent les Nations Unies. Les civils sont pris au piège dans un cycle de terreur, dit le haut commissaire aux droits de l'homme. Et il regrette de ne pas avoir accès aux zones contrôlées par la Russie, ni à la région de Koursk, attaquée par l'armée ukrainienne à la fin du mois d'août. En Russie, justement, le parti présidentiel Russie Unie revendique une victoire sans appel lors d'élections organisées ces derniers jours dans plusieurs régions du pays, plusieurs dizaines de régions, même plus de 80. On en reparlera dans le journal de midi, temps universel, dans moins d'une demi-heure. Une visite importante pour l'Union européenne. Le Premier ministre espagnol est en Chine, il y restera 4 jours. Et Pedro Sanchez arrive avec une mission délicate à Pékin, Justine Fontaine, essayer d'apaiser les tensions commerciales entre Bruxelles et les autorités chinoises.
Oui, rappelons le contexte. L'Union européenne a décidé cet été d'augmenter fortement les droits de douane sur les voitures électriques chinoises pour 5 ans. Face à cela, la Chine a ouvert des enquêtes anti-dumping, notamment sur les produits laitiers, certains produits laitiers en tout cas, et sur la viande de porc. L'Espagne est le principal exportateur européen vers la Chine de produits à base de porc. Elle est donc très exposée à des représailles chinoises dans ce domaine. Elle exporte aussi des voitures sur place avec le constructeur Seat. Pedro Sanchez vient donc jouer la carte de l'apaisement comme ce matin lors d'un discours à l'ouverture d'un forum économique Chine-Espagne à Pékin.
Il soulignait
donc que les deux pays ont signé de nombreux accords bilatéraux ces dernières années et qu'ils réussissent malgré tout à dialoguer, y compris, dit-il, dans les domaines où nos positions divergent.
Mais est-ce que l'Espagne a vraiment du poids et une marge de manœuvre ?
Alors en tout cas, ce sont les pays membres de l'Union européenne dans leur ensemble qui doivent dire d'ici à la fin de l'année s'ils veulent, oui ou non, rendre définitifs les nouveaux droits de douane sur les voitures électriques chinoises. Madrid va-t-elle mettre dans la balance une abstention pour éviter des représailles chinoises sur le port espagnol ? La question est posée par certains observateurs. Il y a quelques semaines, l'Espagne avait en tout cas voté pour les droits de douane provisoires.
Justine Fontaine, 11h36 en temps universel. Celle direction la Turquie, où les efforts, la propagande du gouvernement n'y changent rien. Le nombre de naissances baisse d'année en année. C'est un phénomène assez général, on l'observe partout dans le monde. Mais en Turquie s'y ajoute une situation économique difficile qui n'encourage vraiment pas les jeunes couples à avoir plusieurs enfants. Reportage à Nandlower.
Quand elle était plus jeune, Aileen, qui était fille unique, se voyait mère de deux enfants. Finalement, à 51 ans, cette professeure d'anglais n'a eu qu'une petite fille, aujourd'hui âgée de 7 ans.
Absorbée par mes études et ma carrière, je me suis mariée assez tard. Et j'ai donc eu ma fille assez tard. Ma priorité a été de m'en occuper le mieux possible, donc je n'ai même pas envisagé d'avoir un deuxième enfant. Mais si je m'étais mariée plus jeune, j'aurais certainement souhaité un deuxième enfant.
Dans les années 1970, les parents d'Aileen, avec leur fille unique, étaient une exception. Les couples de l'époque élevaient en moyenne 4 enfants chacun. Mais dans la Turquie de 2024, la famille avec un enfant unique est en train de devenir une banalité, si ce n'est presque la norme. L'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme, est aujourd'hui de 1,5 contre 2,4 en 2001. Ces 5 dernières années, la tendance s'accélère en dépit des appels du gouvernement turc à fonder des familles nombreuses. Mais ce n'est pas tout. Les démographes aussi ont été pris de court, comme le reconnaît Suta Yavuz, professeur à l'Université des sciences sociales d'Ankara.
Nous nous attendions à une baisse de la fécondité, mais la situation dans laquelle la Turquie se trouve actuellement est arrivée beaucoup plus tôt que nous ne l'avions prévu. L'indice de fécondité actuel, nous l'attendions pour les années 2040. Nos projections se sont réalisées quasiment une génération plus tôt, c'est-à-dire avec une vingtaine d'années d'avance. Cela a été une grande surprise.
Comment la Turquie en est-elle arrivée là ? Les facteurs de long terme sont assez classiques. L'urbanisation, les nouveaux modes de vie, la hausse du niveau d'études des femmes, donc l'âge de plus en plus tardif de la première grossesse, 27 ans actuellement. La Turquie n'est pas différente des autres pays développés qui enregistrent une baisse de l'indice de fécondité. Mais pour comprendre l'accélération des dernières années, il faut chercher du côté de facteurs conjoncturels, davantage propres à la Turquie. En l'occurrence, une crise économique marquée par une inflation à deux chiffres depuis 2017 qui dépassait encore les 60% sur un an en juillet. Suta Yavuz.
À cause des politiques économiques menées en Turquie ces 8 dernières années, le pays est entré dans un climat inflationniste auquel personne ne s'attendait. Et comme cette situation se poursuit et que les gens n'ont pas d'espoir qu'elle s'améliore de sitôt, les moins de 30 ans attendent davantage pour faire un enfant.
Avec le recul, Aileen, la professeure d'anglais, ne regrette pas de ne pas avoir eu d'autres enfants.
Ça m'arrive d'y penser quand ma fille me dit qu'elle aimerait un frère ou une sœur. Mais quand je pense à moi, j'en arrive à la même conclusion que beaucoup d'amis dans le même cas. C'est qu'il vaut mieux n'avoir qu'un enfant pour lui offrir les meilleures opportunités possibles dans les conditions actuelles. Avec le recul, l'enfant unique me paraît la situation idéale.
Pour le président Erdogan, qui depuis plus de 15 ans appelle les Turcs à faire au moins 3 enfants, c'est un échec sur toute la ligne. Certes, le pouvoir a mis en place des politiques natalistes, en particulier depuis 2015, mais ces mesures, qui se résument pour l'essentiel à des congés supplémentaires et à des aménagements du temps de travail, visent surtout les femmes actives, dans un pays où seul un tiers des femmes travaillent légalement. Et même pour ces dernières, les mesures restent très insuffisantes, notamment du point de vue des solutions de garde. Suta Yavuz.
En réalité, le vivier de femmes qui pourrait potentiellement faire remonter l'indice de fécondité, ce sont les femmes qui ne travaillent pas. Or, le gouvernement n'a développé aucune politique à leur égard pour les encourager à avoir davantage d'enfants et les soutenir en ce sens. Jusqu'ici, les politiques se sont focalisées sur les femmes actives. Par ailleurs, les hommes ont totalement été oubliés. Rien n'a été fait pour encourager et soutenir la paternité.
Suta Yavuz estime que la Turquie dispose tout au plus d'une dizaine d'années pour tenter d'inverser la tendance, à condition de mettre en place les politiques adéquates. Dans le cas contraire,
si les conditions économiques s'améliorent rapidement, peut-être que ceux qui hésitent actuellement à faire un enfant se décideront à devenir parents et que ceux qui n'ont qu'un enfant seront encouragés à en faire un deuxième. Mais si la situation économique actuelle se prolonge, alors cette fécondité basse risque de se figer et d'être répétée par les générations suivantes. Autrement dit, de devenir une norme sociale.
Autre inconnu de l'équation, le poids de l'immigration. Plus de 3 millions de Syriens sont aujourd'hui réfugiés en Turquie, dont une bonne moitié d'enfants. La grande majorité d'entre eux n'ont aucune intention de rentrer en Syrie. Leur intégration durable à la société turque et la naturalisation d'une partie d'entre eux pourraient permettre à la Turquie de redresser son indice de fécondité déclinant. Mais le sujet est tellement polémique et la présence des Syriens tellement impopulaire qu'une telle éventualité n'a jamais été évoquée publiquement.
Reportage d'Anne Andlauer, correspondante de RFI en Turquie, à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe à partir de 19h10, temps universel.
RFI, l'Europe à midi.
Pour l'heure, on va parler de l'avenir économique de l'Europe, puisque l'ancien président de la Banque centrale, Mario Draghi, vient de remettre un rapport sur la compétitivité du continent. 400 pages qui passent en revue les capacités de tous les secteurs économiques, ainsi que les conséquences des lois européennes en la matière. Pierre Benazet, vous êtes en direct de Bruxelles. Le constat est assez sombre. Bonjour. Il est très sombre, hein, même, ce constat sur l'état de l'économie européenne.
Oui, parce que pour Mario Draghi, l'Europe ne tient pas la cadence. Elle va se retrouver beaucoup trop loin des États-Unis, de la Chine, si elle continue à avoir une approche économique fragmentée. Il promet, je cite, une lente agonie à l'économie européenne qui n'arrive même pas à compenser par l'immigration la diminution de sa main-d'œuvre. Il y a aussi une forme de mea culpa dans ce rapport. Mario Draghi estime que les politiques européennes, dont monétaires, ont négligé de s'alarmer de la stagnation de la richesse des ménages. En 25 ans, le revenu réel disponible par habitant a augmenté presque deux fois plus aux États-Unis qu'en Europe. De la même façon, il faut selon lui une sorte d'électrochoc de compétitivité qui devra remettre en cause certaines orientations politiques de l'UE. L'Europe s'est par exemple tiré une balle dans le pied en permettant l'arrivée presque incontrôlée de panneaux solaires chinois, ce qui a tué le secteur industriel. De la même façon, la menace de l'arrivée de trains à grande vitesse chinois montre selon lui qu'on ne peut plus avoir les mêmes règles de concurrence comme celles qui par exemple ont empêché il y a 5 ans la fusion entre Alstom et Siemens dans le secteur ferroviaire. Au total, l'UE doit pour lui investir en ensemble 5% de son PIB chaque année de manière coordonnée, soit jusqu'à 800 milliards d'euros si elle veut espérer redevenir compétitive.
Voilà, donc toute une série de recommandations dans ce rapport. Mario Draghi les qualifie d'existentielles pour l'avenir de l'Europe. Mais ces 170 propositions devront encore convaincre les 27 pour avoir une chance d'être appliquées, Pierre.
Oui, c'est tout le défi que les États membres acceptent, par exemple, de nouvelles dettes communes, comme celles que l'Allemagne a contre-cœur acceptées pour la relance post-Covid. Selon Mario Draghi, leur avenir économique, celui des 27, ne peut plus se jouer avec des règles nationales fragmentées. Les pays du nord du continent doivent réaliser aussi que leur économie stagnera et régressera s'ils ne soutiennent pas ceux du sud.
Pierre Benazet, en direct de Bruxelles pour RFI. Je vous propose maintenant de parler d'environnement avec notre chronique quotidienne dans quelques minutes. Et d'abord un reportage en Catalogne, dans les Pyrénées françaises, à la frontière avec l'Espagne, dans une zone durement touchée par la sécheresse ces derniers mois, au point que côté espagnol, les autorités avaient imposé des semaines et des semaines de restrictions d'eau. Côté français, éleveurs et agriculteurs essaient de s'adapter avec plus ou moins d'inquiétude, pressés par des chercheurs qui, eux, répètent qu'il faut absolument faire évoluer les pratiques. Juliette Gerbrand.
Des prairies encore vertes, un air frais malgré l'été, nous sommes à Puy-Valador, village des Pyrénées-Orientales. C'est ici, à 1700 mètres d'altitude, que Jean-Pierre Tixador monte son troupeau de 90 vaches en estive. Éleveur certifié en agrobiologie, il produit des veaux de boucherie et vend une partie de sa production directement à des particuliers. Jusqu'à l'automne, le troupeau est sous la bonne garde de Xavi, le berger. Sur le climat, son constat est sans appel.
Nous aurons des problèmes si le climat ne change pas. Parce que dans mon région même, j'ai vu des choses que je n'ai vu jamais les dernières années. Une sécheresse inaudite. Je suis dans le Ripollès, où il pleut plus de toute la Catalogne et presque de toute l'Espagne. Et maintenant, cette année, non.
Sur le cheptel, ça pose quand même un problème parce qu'il y a des parasites extérieurs, comme les tiques, qui prolifèrent par rapport à 2 ou 3 ans en arrière, c'est multiplié par 3. C'est impressionnant, ça fait peur.
Le manque d'eau a aussi un impact sur l'alimentation des bêtes et donc sur la qualité de la viande. Jean-Pierre Tixador le constate depuis de nombreuses années déjà.
Moi, j'ai vu le changement là, depuis 20-25 ans. Comme ça devenait de plus en plus sec ou un déficit biométrique, il n'y a uniquement que les plantes à racines profondes qui ont résisté quoi. Au départ, on avait une herbe assez fine. Après, l'herbe est devenue plus grossière. Et ça, on le voit quand on met les balles de foin dans les râteliers. Il y a de plus en plus de refus. Le foin est moins riche en oligo-éléments. Les vaches, elles ont un besoin beaucoup plus important en minéraux. En minéraux et en sel. Là, cette année, le cours d'eau il s'est limité à une source. Donc, j'ai dû capter la source et mettre des baignoires, plusieurs baignoires à 2000 litres. Après, la question, si ça continue, c'est vrai que la question qui va se poser dans certaines zones du département, est-ce que l'élevage pourra continuer ?
À 40 km de là, dans la commune espagnole frontalière de Puigcerdà, Javier Casanovas, éleveur depuis 5 générations, montre avec fierté l'étendue de son exploitation. Une belle maison fleurie, de nombreux bâtiments et des champs à perte de vue, dont une partie se trouve à cheval sur les deux pays. À la tête d'un élevage semi-intensif, il est nettement moins inquiet.
Le changement climatique, c'est une préoccupation, mais je pense que c'est davantage une question politique que quelque chose qui nous affecte directement en réalité. Bien sûr, chaque année, il y a un peu plus de sécheresse. Les hivers sont plus doux, il neige beaucoup moins que quand j'avais 10 ans, par exemple. Mais bon, je pense que ce sont des cycles et qu'il faut les traverser comme on peut.
Grâce à un canal international qui fournit de l'eau aux exploitations des environs, la nuit côté français, la journée côté espagnol, l'éleveur n'a pas de problème. Son souci, c'est plutôt la paperasse, l'excès de réglementation et la concurrence des autres continents. Les discours alarmistes sur le climat le laissent sceptique.
Temas como podrían ser.
Des idées comme un meilleur usage de l'eau disponible, tout ça, c'est pas réalisable. Pour l'arrosage, par exemple, il faudrait que l'administration investisse. Parce que si c'est l'agriculteur qui doit le faire, c'est impossible. Ce sont des montants qu'on ne peut pas assumer vu les marges qu'on fait sur les produits.
Comment aider l'agriculture face au changement climatique ? La question mobilise les scientifiques. Guillaume Lacman, géographe à l'Université de Perpignan, a co-dirigé une étude sur ce changement et sur les stratégies d'adaptation mises en place par les exploitants. Premier renseignement, cet impact est bel et bien réel.
D'abord, le stress hydrique sur les plantes et sur les animaux ou sur les fourrages. Ensuite, le déficit hydrologique, il manque de l'eau dans les écoulements fluviaux, et donc ça perturbe les prélèvements opérés pour l'irrigation. Et le troisième impact, c'est les difficultés de gestion de l'eau dans une région qui est marquée par des aménagements d'irrigation pluriséculaires.
90% des agriculteurs estiment que leur activité est touchée, a constaté le chercheur. Et face à cette évolution, leur réflexe immédiat, c'est de vouloir sécuriser l'accès à l'eau. Stockage, pompage des nappes phréatiques, c'est nécessaire mais très insuffisant, estime Guillaume Lacman.
Sur le court terme, effectivement, on sécurise, on continue à produire. Mais sur le moyen et sur le long terme, si la disponibilité de l'eau continue à se réduire, ça pose question. Puisque le niveau de consommation, le niveau de prélèvement sur la ressource reste le même. Mais on peut imaginer, il y a plein d'agriculteurs qui expérimentent ces solutions, on va dire, adaptatives, c'est-à-dire qu'elles vont chercher à diminuer la vulnérabilité de l'exploitation agricole, à rendre l'exploitation moins sensible à l'aléa climatique, utiliser d'autres variétés, diversifier ses cultures au lieu de faire que de la monoculture, que du concombre très intensif, et bien changer son système de maraîchage. On a vu de nombreux agriculteurs s'affranchir des filières commerciales très intégrées, s'engager dans un atelier coopératif de découpe de la viande plutôt que d'être dépendant du grossiste, aller chercher la rémunération sur la transformation du produit plutôt que sur le volume de production.
Car l'argent reste le nerf de la guerre face au changement climatique et pour permettre aux exploitants de transformer leur activité sur le long terme, Guillaume Lacman plaide pour que l'Union européenne réforme en profondeur sa politique agricole commune.
Reportage de Juliette Gerbrand à retrouver dans Accent d'Europe sur notre appli RFI Pure Radio. Notre question d'environnement à présent, vous nous parlez des PFAS, Stéphanie Schuller, ces polluants éternels que l'on appelle ainsi parce qu'ils persistent, ils subsistent très longtemps sous forme de micromolécules dans l'environnement. On les retrouve partout, dans l'air, dans l'eau, dans les sols, dans les objets de notre quotidien, dans notre nourriture et donc aussi dans nos corps, dans notre organisme. jusque dans le lait maternel, et ce, y compris dans des régions qui sont a priori très éloignées des sources primaires de pollution, comme l'Afrique ou les îles du Pacifique. Donc potentiellement, Stéphanie, ça concerne chaque femme à travers le monde, d'où notre question du jour. Quels sont les bons gestes que les mères peuvent adopter pour protéger leur bébé et elles-mêmes de ces substances chimiques?
Eh bien, vous venez de le dire, Anne, les PFAS sont partout, mais on peut quand même essayer d'éviter une surexposition, estime Jacqueline Alvarez. Elle est membre du programme des Nations Unies pour l'environnement. Par exemple, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez et que vous vivez dans une zone infestée de moustiques, attention quand vous vaporisez des insecticides type spray anti-moustique, il y a des PFAS dedans. Donc, explique cette experte en produits chimiques.
Ne vous exposez pas aux aérosols. Ne restez pas dans la pièce concernée. Fermez la porte et revenez plus tard quand le produit aura fait effet. De façon générale, utilisez plutôt des moustiquaires. Peignez vos murs en blanc. Les moustiques n'aiment pas ça. Vous réduirez aussi significativement le risque d'être piqué et vous aurez moins besoin d'insecticides qui, certes, chassent des moustiques, mais qui sont aussi absorbés par votre organisme.
Alors, Jacqueline Alvarez conseille aussi aux femmes enceintes ou allaitantes de porter une attention accrue à leur alimentation.
L'une des caractéristiques de ces produits chimiques, c'est qu'ils aiment la graisse. On les retrouve donc dans du lait, du beurre, mais aussi dans la viande. Lorsque vous mangez de la graisse animale, vous risquez d'absorber ces substances chimiques.
Comme les PFAS se décomposent très lentement, ils s'accumulent dans l'organisme des animaux qu'on mange. Un gros poisson prédateur contiendra ainsi plus de ces molécules chimiques qu'un petit poisson.
Et cet effet d'accumulation, il vaut également pour le corps humain.
Oui, tout à fait. Et comme les PFAS s'accrochent aux lipides, les molécules de graisse, ils se trouvent logiquement dans le lait maternel qui en contient justement beaucoup de ces lipides.
En allaitant leur premier bébé, les mères se débarrassent des concentrations de produits chimiques qui se trouvent dans leur corps. Votre troisième ou quatrième enfant court donc moins de risques de recevoir ces substances stockées dans le corps de la mère que le premier enfant.
Alors, les PFAS dans le lait maternel peuvent causer certaines pathologies, Anne, comme des cancers. Ils peuvent aussi fragiliser le système immunitaire ou encore provoquer des malformations dès la naissance. Tout cela étant dit, malgré ces risques, la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé ne change pas. L'allaitement maternel reste, de loin, la meilleure alimentation pour le bébé.
Merci Stéphanie Schuller.
RFI Midi. Un monde de tech.
Un monde de tech aux États-Unis où la société mère de Google, Alphabet, est de nouveau devant les tribunaux. Le procès s'ouvre dans la ville d'Alexandrie, dans l'État de Virginie. Le ministère de la Justice accuse l'entreprise de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la publicité en ligne. Et ce procès fait écho aux récentes offensives européennes contre le groupe. On va en parler avec vous, Gali Bonin, bonjour.
Bonjour Anne.
Du service économie de RFI, ce nouveau bras de fer juridique, il pourrait coûter cher à Google.
Oui, parce qu'il menace la vache à lait de l'entreprise, les recettes publicitaires. L'an dernier, elle représentait les trois quarts de son chiffre d'affaires, soit plus de 225 milliards de dollars. Si elle perd ce procès, l'entreprise devra laisser plus de place à la concurrence. Ça peut vouloir dire donner certaines datas, les rendre publiques, abandonner certaines pratiques commerciales. Mais le vrai danger, c'est que la justice pourrait décider de fractionner Google en plusieurs compagnies pour éviter qu'une seule entreprise tentaculaire monopolise le marché. Le mois dernier, le gouvernement américain, avait déjà remporté un premier procès contre le monopole illégal du groupe sur la recherche en ligne.
Et qu'est-ce que la justice reproche à Google exactement?
Le procès se concentre sur la technologie publicitaire, c'est-à-dire les systèmes informatiques qui mettent en contact les sites internet et les annonceurs et qui déterminent le prix et la visibilité des annonces en ligne. Le ministère de la Justice américain accuse Google de dominer ce secteur depuis une quinzaine d'années, un monopole qui dépasserait les 85% des parts de marché selon Washington. L'entreprise écraserait la compétition en rachetant systématiquement ses rivaux potentiels. Résultat, pour promouvoir du contenu sur le web, les annonceurs sont obligés d'utiliser les outils d'Alphabet.
Et que répond Google pour se défendre?
Simplement que ces accusations sont fausses, Anne. En fait, le groupe californien parle d'un marché hautement compétitif avec d'autres grands joueurs comme Meta, Microsoft ou encore Amazon. La compagnie accuse aussi l'État d'avoir une vision archaïque de la publicité en ligne qui se limite aux sites internet et aux bandeaux. Elle ne prend pas en compte les annonces sur les applications, par exemple. Selon les estimations du cabinet eMarketer, Google contrôle environ 28% de la publicité en ligne devant Meta, qui est à 23%, Amazon à 9%. Le procès va durer 6 mois et la décision devrait être rendue dans 1 an, vers la fin de l'été 2025.
Et les États-Unis, il faut le dire, ne sont pas les seuls à serrer la vis à Google.
Oui, les pays européens ont multiplié les offensives depuis 2 ans. Le dernier en date, c'est le Royaume-Uni. Après 2 ans d'enquête, l'autorité britannique de la concurrence a accusé Google d'abus de position dominante vendredi dernier. Cette conclusion pourrait nuire à l'entreprise qui a déjà 2 procès sur le feu en Grande-Bretagne. Les 2 actions de groupe réclament plus de 26 milliards de dollars en dédommagement. L'an dernier, un rapport de l'Union européenne arrivait aux mêmes conclusions. Bruxelles scrute de près les activités du géant américain dans le secteur de la publicité en ligne. L'Europe demande des changements et se réserve le droit, tout comme les États-Unis, de démanteler l'entreprise en dernier recours.
Notre monde de tech, signé Gali Bonin. Merci.
RFI, les voix du monde.
Dans 5 minutes, un nouveau journal sur RFI et puis à midi et demi, temps universel, Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner.
Avec à la une aujourd'hui.
Le spectre d'un nouveau drame de l'émigration clandestine au large du Sénégal. Une pirogue avec au moins 150 passagers a chaviré hier après-midi au large de la ville de Mbour. Les recherches ont repris ce matin. Et puis en Algérie, le taux de participation après la présidentielle provoque une polémique. Il serait en fait 2 fois moins élevé que l'estimation de 48% évoquée samedi par l'ANI, l'instance électorale. L'ANI qui a déclaré hier soir, sans surprise, le président sortant Abdelmadjid Tebboune réélu pour un second mandat.
A tout à l'heure, Nicolas Sûr, on vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure. De la musique en attendant le prochain journal. Saoudage, voici le titre Somain Grand Bois.
Il est encore temps de participer au concours vidéo hip-hop proposé par RFI Planète Radio en partenariat avec l'Institut de Recherche pour le Développement.
Prenez vos smartphones et captez le ressenti des femmes et des hommes qui affrontent les conséquences des changements environnementaux et climatiques dans leur localité. Participez aux formations en ligne et envoyez vos vidéos de 3 minutes maximum à concours.epop.network.
Vous avez jusqu'au 12 septembre pour tenter de gagner des bourses de production et des diffusions dans de grands festivals européens. À vous de jouer!